On a compris que cet État est l'État qui nous représente tous. On y a notre place. Donc, de manière naturelle, nous voulons participer à la direction de cet État puisque nous sommes une partie de cet État. On le reconnaît, on le comprend. C'est notre État à nous aussi. Nous en sommes partie prenante. On a compris que cette peur de voir le judaïsme effacé par l'État n'avait plus de fondement.
Bonjour à tous. En Israël, on les appelle les Haredim, littéralement ceux qui craignent Dieu. Ce sont les Juifs ultra-orthodoxes, une communauté religieuse aujourd'hui en mutation. Les Haredis sont environ 900 000 dans le pays, soit près de 10% de la population, et leur nombre devrait tripler d'ici 2050. Pour la plupart, les hommes Haredis sont reconnaissables à leurs costumes et chapeaux noirs, à leurs chemises blanches et à leurs papillotes. Leurs journées sont uniquement consacrées à l'étude de la Torah. Les femmes, elles, portent la jupe longue et le foulard sur la tête. Elles sont souvent exclues de l'espace public, contraintes de travailler pour nourrir une famille qui doit être la plus nombreuse possible. Les Haredis vivent en marge. Pas de lycée, pas d'université, pas de service militaire, pourtant obligatoire en Israël. C'est un monde à part, replié sur lui-même, qui refuse la modernité. Mais ce séparatisme social étouffant est de plus en plus insupportable pour beaucoup de juifs ultra-orthodoxes qui, sans quitter la religion, veulent s'émanciper de la domination des rabbins les plus conservateurs. Un besoin d'ouverture à la société israélienne encore timide, mais inédit dans cette communauté où la loi divine s'impose à tous. Juifs ultra-orthodoxes à la croisée des chemins, c'est un reportage à Jérusalem d'Étienne Monin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Le 52 de la rue Yirmiyahou est une petite porte d'entrée dans la très hermétique société ultra-orthodoxe. Le numéro est tagué sur un muret, la porte donne dans un garage, les murs sont recouverts de livres en yiddish, il y a une petite scène au fond. C'est un cabaret-école klezmer, celui d'Avraham Bourstein, ouvert à tous sur la culture klezmer et les ultra-orthodoxes.
Salam. Salam.
My name is Avrum Leib Burstein.
Mon nom est Avrum Leib Burstein. Je suis le fils de Rabbi Raïm et son père était Rabbi Moshe Burstein. Il est arrivé il y a un siècle de Pologne avec ses deux enfants. Il y a cinq ans, il est parti, il est mort et il laisse dans le monde plus d'un millier d'enfants, de petits-enfants et de petits-petits-enfants. Ma mère vient d'une famille plus moderne, on dirait libérale. Elle est venue d'Allemagne, mais ils sont allés aux États-Unis dans les années 40. Elle est née là-bas, et sa famille est plus comme une famille d'Hollywood. Vous voyez, Barry Mendel, c'est notre cousin. Il fait des films pour Steven Spielberg, donc j'ai le sentiment d'être un mélange entre Hollywood et Mea Shearim.
Est-ce que vous diriez que cet endroit est une forme de lien entre les ultra-orthodoxes et la société, le monde extérieur ?
Ma conviction, c'est que si la musique est profondément authentique, si on a affaire à de la musique yiddish qui vient de l'âme, ça peut apporter un équilibre entre les juifs de l'intérieur et le monde. Parce que l'âme, la vérité qu'il y a dans cette musique, la danse, les histoires, toute la culture klezmer et yiddish, c'est quelque chose d'universel. Il y a 25 ans, j'ai construit cette école de musique klezmer dans notre communauté. Et des gens de notre communauté sont venus ces 10 dernières années d'Allemagne ou d'ailleurs pour apprendre le klezmer authentique, sans les notes, juste à l'oreille, par cœur, comme le faisaient nos pères.
Et
c'est pourquoi dans ce petit sous-sol, on peut voir tous les samedis soirs dans notre représentation klezmer des gens différents qui ne pourraient pas se rassembler ailleurs dans le monde. Vous avez des touristes de France, d'Allemagne, de Suisse, avec des musiciens et des danseurs ultra-orthodoxes. C'est la musique qui nous rassemble et qui fait qu'on se sent bien.
En général, quand vous êtes dans un quartier ultra-orthodoxe et que vous n'appartenez pas à ce monde, vous sentez que vous avez le droit d'être là, mais vous n'êtes pas non plus invité, les habitants ne souhaitent pas que vous soyez là. Pourquoi est-ce que vous, vous voulez que les gens entrent dans votre maison et dans votre monde ?
That's right.
C'est vrai.
It's very difficult to be a part.
C'est très difficile de faire partie des quartiers extrémistes ultra-orthodoxes, même quand vous les visitez.
But if you see in a
Alors que si vous allez à Golders Green et Stamford Hill, les quartiers de Londres, vous pouvez voir des extrémistes ultra-orthodoxes avec d'autres gens. Ils vivent ensemble. Ici en Israël, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'émotions entre les sionistes et les anti-sionistes, entre les religieux et les laïcs, entre les arabes, les juifs, les chrétiens. Jérusalem, c'est comme 10 États dans une même ville. Peut-être que je suis un grand rêveur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique klezmer, la vraie musique de l'âme juive, peut apporter la solution au monde.
Là, on va aller dans le cœur de ce quartier et on doit faire attention à notre apparence. Ils n'aiment pas les touristes. Oui, là, c'est bien. J'appelle cette visite le tour en noir et blanc. D'abord, c'est à propos de la couleur des vêtements. Dans ce monde, la plupart des couleurs sont noires ou blanches. Il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs. Les choses sont modestes, solides, pas très drôles vu de chez vous. Noir et blanc, ça a une autre signification et c'est très fort dans cette communauté. C'est noir et blanc. C'est juste ou faux. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. Ce que l'on va voir aujourd'hui, ça n'est pas ça. On va voir quelque chose de très figé, d'extrême, d'étroit. Ici, c'est noir ou blanc. D'autres mots, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'entre-deux. C'est juste ou faux. Soit vous faites partie du groupe, soit vous êtes exclu. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est quelque chose de très important à comprendre autour de cette communauté qu'on va voir aujourd'hui. Je m'appelle Alan Kruger, j'ai 44 ans, je suis né et j'ai grandi en Israël. J'ai été élevé dans un milieu juif orthodoxe, j'ai pratiquement passé toute ma vie avec ce modèle. J'ai étudié, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. Et il y a 6 ans, les choses ont changé de façon assez radicale. Quand j'ai divorcé, d'abord, et 1 an après, il y a 5 ans, j'ai fait un changement et j'ai quitté ce mode de vie. J'ai quitté le mode de vie religieux. Et je suis rentré dans ce que je pensais pouvoir appeler le monde libre, la vie en liberté. J'ai d'ailleurs découvert qu'il avait aussi ses propres règles que j'essaie d'apprivoiser. Ça fait un grand écart. Et voilà où j'en suis, à essayer de trouver mon nouveau chemin.
From
De ce que j'ai vu dans les 15-20 dernières années, il y a de plus en plus de groupes qui se forment et qui grandissent, en restant connectés au fondement de la religion, mais d'une manière de faire plus ouverte. Parce que ce qui se passe dans la communauté juive orthodoxe au chapeau noir, c'est qu'avec le temps, ils sont devenus tellement extrêmes que la pression est montée au fur et à mesure. Et les gens qui grandissent dans ce système se sentent pris par un système envahissant, étroit, oppressant, avec des règles tout autour, toute la journée et pour toutes leurs activités. Et tout le monde n'est pas capable de s'accommoder de cela. Et ce qui se passe pour des gens comme moi ou des gens de 20, 30, 40 ans, quand le système est devenu tellement extrême, si vous perdez le sens, vous n'avez que deux options. Soit vous restez là en vous dissimulant d'une certaine façon, soit vous partez, vous disparaissez, vous devenez un corps étranger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai reculé de quelques pas et j'ai quitté la religion. Ce qui se passe, c'est selon moi intimement lié à ce qui se passe dans l'État d'Israël. En 1948, quand l'État d'Israël a été créé, c'est là que l'armée est devenue obligatoire pour tous les garçons et les filles âgées de 18 ans. Mais la communauté orthodoxe n'était pas d'accord. Ils refusaient d'envoyer leurs enfants à l'armée parce qu'ils voulaient que leurs enfants étudient la Torah à plein temps. Donc il y a eu un accord qui a été passé à cette époque pour qu'un enfant qui ne travaille pas et qui passe son temps à étudier soit exempté de service militaire. Ça met tout dans les extrêmes. Ça veut dire que tout enfant orthodoxe qui grandit dans cette société ne peut qu'étudier. Il ne peut pas travailler officiellement sauf s'il passe par l'armée. Mais comme il veut éviter l'armée, il se plonge dans les études à plein temps. Ça veut dire qu'il ne peut plus travailler. Même plus tard, s'il est marié, qu'il a des enfants, qu'il travaille un peu parce qu'il a finalement décidé de faire l'armée sur une période courte, il n'aura pas de véritable travail parce qu'il n'a jamais rien étudié d'autre que la Torah. Globalement, tous les enfants de la communauté, à partir de 15 ans, ne sont jamais allés au lycée, jamais à l'université. Ils n'ont jamais étudié les maths, l'histoire, la géographie. Tout ce qu'ils ont fait, c'est étudier la Torah, qui est un travail incroyable, mais ça ne donne aucune compétence pour avoir un métier. La génération d'aujourd'hui des plus jeunes, leurs parents et même leurs grands-parents étaient déjà ces étudiants à plein temps de la Torah. Donc ils n'ont aucune aide pour faire vivre leur famille. Et si on croit parfois que le gouvernement soutient ces familles, ça n'est plus vrai. C'est ce qui s'est passé après la signature de l'accord. Là, le gouvernement a fortement soutenu les familles. Mais avec le temps, ça a diminué. Et il y a des gens contre dans l'autre bord, celui des laïcs. Il n'y a plus d'argent. Ce qui crée d'ailleurs une drôle de situation qui fait que les femmes doivent sortir et aller travailler.
Je viens de Jérusalem, j'ai 14 ans, j'ai fait mon aliyah il y a 2 ans et demi, et voilà.
Qu'est-ce que tu apprends dans cette école ?
Alors, en hébreu, on apprend la Gemara.
C'est une matière religieuse ou c'est une matière ?
C'est une matière religieuse.
Ok.
Voilà, c'est tout ce qu'on fait en hébreu, et en français, on fait histoire, langue, maths, anglais, informatique.
Et avant cette école, tu as fait d'autres écoles quand tu es arrivé en Israël ?
Ouais, j'en ai fait une.
Et quelle est la différence entre ta première école et celle-ci ?
La première école, elle n'était pas super. C'était très bof, on n'apprenait pas beaucoup, on faisait rien. Et celle-là, elle est beaucoup mieux.
T'es resté combien de temps dans la première école ?
2 ans.
Et tu me dis, c'était bof ?
Ouais.
Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, c'était bof ?
Les profs, ils étaient pas super, on apprenait pas beaucoup l'étude française, genre elle était pas très bien. Voilà.
Qu'est-ce que vous appreniez principalement dans cette école?
On apprenait quasiment rien, on apprenait à peine de l'histoire et voilà, c'est tout, ouais.
Mais il n'y avait que deux heures?
Il y avait des profs de maths, des profs d'anglais, mais ils n'étaient jamais là.
Mais vous aviez combien d'heures de cours par semaine?
On commençait à 7h30, on finissait à 4h.
Vous faisiez quoi donc pendant tout ce laps de temps?
On faisait le matin, on faisait l'hébreu. Et l'après-midi, des fois, il y avait des cours. Si quand il n'y avait pas, on jouait au foot.
Et dans la première école, tu avais l'impression, toi, qui venais de France, de perdre ton temps?
Ouais.
Il y a dû avoir un sacré choc, non?
Ouais.
Parce que là, tu étais dans une véritable école ultra-orthodoxe?
Ouais. Et ça ne me convenait pas du tout, parce que moi, je suis pas comme ça. Nous, on vient de France, on est une famille normale.
Voilà. Je m'appelle Bezalel Cohen, je suis le rabbin directeur de la Yeshiva, lycée Rahm Elev. Pendant 18 ans, j'ai étudié dans des écoles religieuses, certaines des plus grandes écoles. Et pendant 6 ans, je me suis occupé de trouver des solutions pour aider les jeunes ultra-orthodoxes qui veulent aller étudier et travailler. Il y a un cadre dans la société ultra-orthodoxe, et ce cadre empêche un jeune adolescent de 14 ans et plus de décider ce qu'il veut étudier. Le cadre est fait pour une seule chose, étudier le Talmud, les études religieuses, du matin jusque tard dans la nuit. Il n'y a pas d'autre option. Ce cadre est tellement rigide qu'il empêche le choix personnel de l'enfant pour décider si cette voie lui convient ou si elle ne lui convient pas. La capacité d'étudier le Talmud, les études saintes, s'est réservée en fait à une petite minorité. Ça ne peut pas dépasser les 30% de ses élèves au maximum. Eux, ils sont dans un cadre qui les prépare à devenir de véritables sages de la Torah. C'est-à-dire ceux qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah. Mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et ce qui se passe ensuite avec les 70% qui ne sont pas faits pour cela, eh bien, il a fallu trouver une solution. Et c'est pour cela que nous avons ouvert cette école dans laquelle les jeunes, à partir de l'âge de 14 ans, ont la possibilité d'étudier le Talmud et des matières générales pour se préparer au baccalauréat dans toutes les matières et trouver ce qui leur convient. Nous sommes arrivés à la conclusion que quand on permet à des enfants, des adolescents d'étudier ce qui leur convient, eh bien ils ont beaucoup plus de chances de réussir.
Est-ce que vous avez eu des soutiens ou est-ce que vous avez eu des contraintes?
Il y a peu de soutien à la maison et il y a énormément d'opposition dans la rue.
Est-ce qu'on peut appeler cette école une école qui permet l'émancipation?
Absolument. C'est exactement ce que nous faisons avec nos élèves. On les prépare à la vie, c'est-à-dire que d'un côté, ils reçoivent une éducation religieuse profonde, avec des principes de morale et d'éthique juive qu'ils doivent suivre pour en faire des êtres humains attachés à leur peuple et à leur tradition. Et en même temps, on ouvre des perspectives sur une vie qu'ils pourraient construire de façon indépendante.
Si vous avez fait ça, c'est parce que vous avez un regard très précis sur la société ultra-orthodoxe. Quel est l'état social, selon vous, de la société orthodoxe?
La société ultra-orthodoxe est dans une situation de crise. Elle est dans un moment décisif. Elle doit faire des choix pour continuer à tenir. Et cela dans tous les domaines. Le domaine religieux, social, économique. Il faut qu'on se prépare à la vie réelle, extérieure, pour pouvoir continuer à tenir et maintenir cette société. Là, je peux vous dire que la société ultra-orthodoxe se trouve dans une situation où sa pérennité n'est pas assurée. Si des solutions adaptées ne sont pas trouvées rapidement, nous allons assister à un énorme départ de la société Haredi. Des gens qui vont quitter cette société, qui ne pourront plus tenir. Et ça n'arrangera pas la situation de ceux qui resteront à l'intérieur.
Est-ce que ça veut dire que le modèle défendu encore aujourd'hui par les Haredim n'est plus viable et qu'il risque de s'effondrer avec la société Haredim?
Ce que l'on voit ici, ce n'est pas un modèle ancien qui daterait de plus d'un siècle. Il ne correspond absolument pas au modèle des sociétés ultra-orthodoxes telles qu'on les a connues avant la Shoah. est tel qu'on le trouve aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe. C'est un modèle qui a été créé spécifiquement pour Israël il y a 70 ans avec la création de l'État et qui était destiné à préserver cette société des influences extérieures, de la modernité, de la laïcité. Et aujourd'hui, tout cela ne convient plus aux besoins de la société ultra-orthodoxe, surtout avec l'entrée d'Internet.
Est-ce que vous êtes un Haredi, un craignant Dieu ?
Yes.
Vous êtes aussi un homme politique. Vous avez été député pour un parti centriste il y a 2 ans. Donc vous êtes aussi quelqu'un qui fait la loi et qui fait de la politique.
J'ai été membre du Parlement israélien et j'ai travaillé sur des lois qui concernent la communauté Haredi.
Alors, je voudrais vous montrer une vidéo et je voudrais que vous nous expliquiez ce qui se passe sur cette vidéo. On est dans ce qui ressemble à un quartier ultra-orthodoxe en Israël et c'est vraiment violent.
Donc la vidéo qu'on regarde, c'est l'arrestation par la police israélienne d'extrémistes religieux. Ils sont arrêtés pour avoir attaqué des soldats israéliens. La plupart du temps, ces attaques sont verbales. Mais une fois, ça a aussi été un peu violent, avec des coups. Ce sont ceux qu'on voit sur la vidéo en train d'être arrêtés qui ont été violents. Et la communauté essaye d'empêcher l'arrestation.
Est-ce que vous connaissez ça parce que votre fils en a été victime de cette violence ?
Oui, dans le cas de mon fils, c'était juste verbal, pas physique.
Et aussi, dans mon cas, beaucoup de gens
Et aussi, beaucoup de gens de la communauté sont venus pour l'aider à s'échapper. Donc oui, je suis concerné par ça.
Pourquoi cette réaction contre l'armée ? Parce que ça n'est pas le seul cas. Il y a eu beaucoup d'affaires de ce genre ces 2-3 derniers mois.
Ce qui est important à comprendre, c'est que la communauté ultra-orthodoxe, les Haredi, comme ça se dit en hébreu, en Israël sont autour de 800 000, ce qui est 10% de la population d'Israël. Dans cette population, les extrémistes sont très peu nombreux. Ils font beaucoup de bruit. Ils sont doués pour le théâtre et les médias. C'est un petit groupe. C'est un groupe qui pense qu'il n'a rien à faire avec l'État d'Israël. Ils veulent être ici, étudier les textes sacrés, prier et n'avoir rien à voir avec la société israélienne moderne. Leur plus grande crainte, c'est que leurs enfants s'engagent dans l'armée d'Israël. Et donc, ils réagissent quand des soldats israéliens passent par leur quartier. Surtout s'ils sont religieux, ils ne s'en prennent pas aux laïcs. C'est parce qu'ils voient cela comme une menace pour leur mode de vie et leur futur. Et malheureusement, vous en avez certains qui sont parfois violents.
Est-ce qu'ils ont cette attitude ? Parce qu'il y a un débat en ce moment au sein de la société Haredi sur le lien à l'État d'Israël.
Ça, c'est le point le plus important. Cette société Haredi, ces 800 000 personnes dont je parlais tout à l'heure, sont en train de réaliser, petit à petit, qu'ils peuvent faire partie de la société israélienne tout en étant religieux. Comme en France, il y a des gens religieux de différentes fois et des juifs qui sont ultra-orthodoxes, fervents, mais qui travaillent. Ils sont dans le commerce, dans différentes professions, ils font partie de la société. La communauté ultra-orthodoxe en Israël cherche à trouver cet équilibre. Donc il y en a de plus dans l'armée, de plus en plus qui travaillent, ils sont plus nombreux à l'université. Donc, les plus fanatiques, les plus extrémistes voient ce qui se passe et c'est l'expression de leur frustration, je dirais même de la perte d'espoir à force de voir de plus en plus de Haredi prendre une part dans la société israélienne. Il y a un débat dans la société israélienne sur le service militaire. Les dirigeants de la communauté Haredi, en dehors de ces extrémistes, s'opposent toujours à laisser les jeunes partir à l'armée. Mais en dépit de cela, il y a de plus en plus de garçons Haredi qui vont à l'armée. C'est un développement important. La société devient progressiste, plus intégrée à Israël. Donc, le camp radical va encore plus montrer ses muscles, et c'est ce qu'on voit dans cette violence.
Donc, on a parlé des extrémistes, on a entendu votre point de vue sur l'ouverture des ultra-orthodoxes sur la société. Est-ce que ça veut dire qu'au milieu, il y a un immense groupe qui cherche une direction?
Complètement. Il y a beaucoup de confusion dans la communauté. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire. D'un côté, il y a les rabbins qui disent « Vous ne pouvez pas aller dans l'armée, vous ne devriez pas travailler, vous ne devriez pas aller à l'université. » De l'autre côté, ils n'ont pas la conviction qu'ils devraient étudier toute la journée. Ils veulent faire d'autres choses. Ils voient certains de leurs amis qui sont dans l'armée et fiers d'appartenir à l'armée israélienne en étant toujours des religieux. Ils voient certains de leurs amis avoir des diplômes, réussir sur le plan professionnel en étant toujours religieux. Donc il y a un énorme pourcentage de la communauté qui ne sait pas dans quelle direction aller. Vous avez des extrémistes d'un côté, vous avez ceux qui sont totalement modernes et inclus dans la société de l'autre côté. Je dirais que la majorité ne sait pas où aller.
Alors vous êtes Haredi, c'est ce que vous avez dit quand on a commencé cette interview, mais à cause de vos positions, certains responsables de journaux Haredi, certains politiques disent « Dov Lipman n'est pas un Haredi ». Est-ce que ça veut dire que quand vous avez un point de vue différent dans cette société, vous êtes exclu?
C'est principalement la façon de réagir de la vieille garde. Si quelqu'un va à l'armée, ok, il n'est pas Haredi. Si quelqu'un va à la université, il n'est pas Haredi. C'est leur approche. Ils savent, les dirigeants religieux savent, que c'est un outil affectif parce que quelqu'un qui a grandi dans la communauté et qui se considère Haredi n'a pas envie qu'on lui dise « ça, ce n'est plus votre identité ». Et c'est une menace contre les jeunes qui voudraient explorer un peu le monde de l'intégration, mais qui ne voudraient pas se faire rejeter par la communauté. Et ça marche, ça fonctionne pour tenir les gens. Mais je dis, avec le temps, les choses vont changer. Plus on verra les bienfaits qu'apporte un équilibre entre tout cela, plus il y aura de gens pour dire « je m'en fiche du jugement de la vieille garde sur moi ». Je suis convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi.
On va entrer maintenant dans un des bâtiments qui fait partie à Jérusalem des endroits les plus étonnants. C'est un musée. Il est posté sur l'ancienne ligne de front qui est maintenant la ligne du tramway. Il a encore des traces de combat sur ses murs. C'est un ancien poste militaire et c'est devenu un musée à tonalité sociologique qui est au croisement de plusieurs quartiers, de plusieurs identités, qui propose en ce moment une exposition avec des artistes ultra-orthodoxes qui ont mis certaines de leurs œuvres à l'intérieur de ce musée. Rencontre avec David Amirai qui fait partie de la direction de ce musée sur la ligne. On va traverser un peu de cet art, de cette expression ultra-orthodoxe. On peut donc voir ce que font ces artistes ultra-orthodoxes.
Certains des artistes ultra-orthodoxes, je peux dire que la plupart d'entre eux, enfin certains sont assez rebelles. Ils ont une façon ironique d'aborder la religion et la foi, et d'autres sont très abstraits, comme cet artiste qui habite dans le quartier de Mea Shearim. Il a voulu exposer de façon anonyme.
Pourquoi ?
Parce que il a dit ça n'est pas quelque chose qui soit accepté communément dans le monde ultra-orthodoxe de faire de l'art.
Vous voulez dire que c'est un art caché, souterrain?
Pour lui, oui. Mais d'autres n'ont pas peur de montrer leur nom. Maintenant, il y en a qui veulent rester anonymes.
Est-ce qu'il y a des menaces contre eux?
Non, je ne pense pas qu'il y ait des menaces. Mais je pense qu'ils... Vous savez ce que les gens autour pourraient dire. Un artiste, ce n'est pas quelque chose de valorisé dans la culture ultra-orthodoxe.
Of course, it's always considered... Ce sont les études religieuses, c'est la position de rabbin qui compte. Les artistes sont en bas de l'échelle. Et certains ne veulent pas apparaître parce que leur travail est polémique.
Mais la réalité, c'est qu'on peut être à la fois ultra-orthodoxe et artiste.
Oui,
et maintenant, il y a une renaissance des artistes ultra-orthodoxes et des écoles d'art orthodoxe. Et il y a beaucoup d'endroits qui s'ouvrent à Jérusalem, et c'est beau à voir.
Donc ce tableau-là,
c'est la création du monde. Et vous ne pouvez pas vraiment dépeindre la création du monde. C'est quelque chose qui doit rester abstrait. C'est ce qui correspond à cet artiste. Alors que cet autre artiste orthodoxe, elle a pris la célèbre toile d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden et elle en a fait une revendication pour le droit des femmes. La peinture originale, c'est Adam et Ève qui sont habillés avec des feuilles, mais elle a représenté Ève totalement recouverte de feuilles. Elle dénonce le fait que seuls les hommes peuvent être représentés. Les femmes doivent être cachées dans le judaïsme.
Donc, c'est un véritable message social.
Oui, c'est une belle façon de voir un artiste contemporain utiliser un outil de protestation pour tenter de changer les choses avec un message social.
Je m'appelle Esti Shushan. Je suis née dans une famille ultra-orthodoxe. Je suis mariée. Je travaille dans le domaine de la publicité. Je suis aussi réalisatrice dans le cinéma ultra-orthodoxe et je suis une activiste dans les affaires sociales, dans tout ce qui touche à la représentation et aux droits des femmes. Ça a commencé par un trop-plein. On en a eu assez d'être effacé de la réalité. Il faut comprendre comment ça se passe. Par exemple, dans un journal, on effaçait le nom d'une femme. Même s'il était question d'un sujet qui la concernait, le nom de cette femme n'était pas publié. Mais je pense qu'il faut avoir un grain de folie pour faire ce que j'ai fait. Parce que dans la société haredi, le statut des femmes est tel qu'elles ne peuvent pas contester les décisions de la société représentées par les hommes et par les rabbins. C'est très difficile, très très difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart ont très peur de cela. Ça ne se fait pas, ce n'est pas facile à faire. Moi, j'étais probablement un peu inconsciente. J'ai été une des premières à me rendre compte que ce n'était pas normal, et j'ai commencé par écrire un post sur mon Facebook. Et à ma grande surprise, il y a eu des réactions. Certaines étaient négatives, mais il y a eu de plus en plus de réactions positives, des gens qui étaient d'accord pour dire que ce n'était pas normal. Et ça s'est amplifié. Aujourd'hui, il y a même des femmes très très haredis, de celles qui ne sortent pas du tout de l'enclave et qui pensent que ça n'est pas normal, que ça aille aussi loin. Ce que j'ai compris, c'est que le véritable problème, c'est que les décisions étaient prises dans les sphères du pouvoir, à différents niveaux, et on n'avait aucune représentation, ni physiquement, ni par procuration. Et j'ai compris que c'est là qu'il fallait faire un changement. Ça a commencé avec un mouvement de protestation qu'on a intitulé Loni Vrarot, Lobo Rarot, c'est-à-dire pas de vote sans femme élue. Puis ça a grandi, c'est devenu un mouvement politique qui fait avancer le sujet des femmes haredi en politique et qui s'appelle maintenant Nivrarot, les élus au féminin.
Est-ce que le fait que beaucoup de femmes haredi travaillent, qu'elles aient fait des études, qu'elles soient connectées à la société, participe ou explique cette prise de conscience et cette demande de droits en plus des devoirs?
Eh bien, ça a créé une situation absurde. Les femmes haredis sont éduquées, elles sont présentes pratiquement dans tous les domaines. Elles sont au plus haut niveau dans la fonction publique, elles ont brisé beaucoup de plafonds de verre. Et c'était le seul domaine dans lequel elles n'avaient aucune voix, elles n'existaient absolument pas, et ça a commencé à faire un peu trop. Les choses n'étaient plus acceptables, ça devenait complètement absurde. Je vais vous donner un exemple concret pour comprendre comment les choses se passent et où sont les difficultés. Il y a quelques mois, à l'occasion de la fête de Hanouka, il y a eu un immense rassemblement de jeunes filles qui étudient dans les séminaires haredis et pas forcément les plus extrémistes. Il y avait entre 15 et 18 000 jeunes filles. Elles étaient à la fin de leurs études dans ces séminaires et le seul sujet de ce rassemblement était pour leur dire qu'elles n'avaient pas le droit d'aller à l'université. C'est une réaction à ce qui se passe sur le terrain. La société a tellement grandi, il y a plus de débouchés dans ce qui était les principaux métiers avant pour ces filles, l'enseignement ou le travail de puéricultrice, mais si elles veulent entrer dans d'autres métiers, il faut qu'elle passe par l'université. Et il y a une pression énorme pour stopper ce mouvement. Ces 18 000 jeunes filles sont venues pour entendre que l'entrée à l'université, c'est un péché. Ça, c'est quelque chose qui influence. Face à cela, nous, on essaye de faire passer autre chose. On explique à ces jeunes filles qu'elles ont des droits, qu'elles sont des êtres humains, qu'elles peuvent avoir un métier et que la pauvreté n'est pas une condition obligatoire dans la société haredi.
Globalement, dans les sociétés haredi, les hommes travaillent de moins en moins et les femmes travaillent de plus en plus. C'est l'évolution. Est-ce qu'il y a une industrie qui s'est créée autour du travail de ces femmes pour créer les conditions pour qu'elles puissent travailler, mais en même temps continuer à rester ultra-orthodoxes, religieuses, et puis à élever leurs enfants aussi, parce qu'elles en ont beaucoup. Et est-ce que ces femmes sont bien considérées dans ce travail? Est-ce qu'elles sont correctement payées? Ou est-ce qu'au contraire, il y a aussi un prix qu'elles doivent payer pour pouvoir travailler avec les conditions d'être, de venir du milieu haredi?
Ce qui se passe sur le terrain, c'est que ces institutions ont été créées avec l'accord des rabbins pour permettre à ces femmes de travailler et d'avoir une rémunération minimale. En fait, elles sont totalement exploitées. On leur explique dès le départ, vous n'allez pas travailler pour développer une carrière, ne commencez pas à rêver d'un épanouissement personnel ou d'une évolution. Il s'agit de travailler pour gagner une somme modeste, le nécessaire pour faire vivre votre famille. Vous avez un rôle, vous devez servir un idéal, et cet idéal, c'est votre mari qui va consacrer sa vie à l'étude de la Torah et que vous allez servir en allant travailler dans de mauvaises conditions et en étant totalement exploité.
Est-ce que ça veut dire que vous considérez que les leaders de la communauté haredi entretiennent la pauvreté dans la communauté?
Oui, absolument, même si ce n'est pas l'objectif initial.
À l'origine, vraiment, l'idée, c'est de préserver la manière de vivre haredi traditionnelle. C'est-à-dire que les hommes consacrent leur vie à l'étude de la Torah et les femmes sont là pour aider, pour permettre cet idéal spirituel très élevé.
Mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. C'est une société de subsistance. Il y a beaucoup d'organisations caritatives. On ne laisse pas les gens mourir de faim. Il y a toutes sortes d'aides. Cette aide permet de tenir, mais elle crée aussi une dépendance totale. C'est-à-dire que finalement, même si ça n'est pas ce qui est recherché, ces personnes sont totalement dépendantes de ce leadership. Elles ne peuvent pas sortir du système parce qu'elles n'ont rien dehors qui leur permet de tenir le coup. Et celles qui en souffrent le plus, ce sont les femmes.
Si on voulait voir les choses d'un point de vue occidental, on dirait que Yehuda Meshizav est un repenti. Il a des sacrées épaules et un passé de gros bras pour le compte d'une communauté ultra-orthodoxe radicalement opposée à l'État d'Israël. Il a changé de route pendant la première intifada. Il a fondé une structure Zaka qui intervient sur les attentats pour préserver et identifier les corps des victimes. Et il est aujourd'hui farouchement convaincu que le destin des ultra-orthodoxes est lié à l'État d'Israël.
Pendant des années, l'idée était que le sionisme était une véritable menace pour notre judaïsme, pour notre identité juive, pour notre lien à la pratique religieuse. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur. Ce n'est absolument pas le cas. Nous allons bientôt arriver au stade où c'est nous qui devrons prendre notre part à la direction de l'État. Il nous faut nous préparer à cela. Il faut que nous sachions comment le faire. Il faut qu'on s'intègre dans l'économie, le marché de l'emploi, l'armée. C'est nous qui allons un jour prochain diriger ce pays. Il faut qu'on s'y prépare.
Diriger ce pays parce que le taux de natalité ou parce qu'il y a aujourd'hui une capacité, un désir des ultra-orthodoxes de prendre leur destin en main par le biais politique ?
Pour les deux raisons. D'abord, oui, on attend des chiffres qu'on ne peut plus ignorer. Nous sommes aujourd'hui un peu plus d'un million dans la société juive israélienne. D'après les statistiques, on va représenter à peu près 40% dans les 15-20 années qui viennent. C'est tellement important comme chiffre qu'on ne peut plus l'ignorer. Mais il y a aussi cette capacité à comprendre aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé il y a 70 ans à la création de l'État d'Israël. Il y a cette capacité à intégrer le fait que le sionisme, le développement de l'État d'Israël n'est plus une menace. On a compris que cet État est l'État qui nous représente tous. On y a notre place. Donc, de manière naturelle, nous voulons participer à la direction de cet État puisque nous sommes une partie de cet État. On le reconnaît, on le comprend. C'est notre État à nous aussi. Nous en sommes partie prenante. On a compris que cette peur de voir le judaïsme effacé par l'État n'avait plus de fondement.
Comment définir l'état de la société haredi aujourd'hui vis-à-vis de cette question du lien à la société et de la modernité? Est-ce qu'elle est en crise ou est-ce qu'elle sort de cette crise? Comment lui définit l'état dans lequel se trouve la société aujourd'hui?
Ce qui se passe aujourd'hui dans la société haredi, c'est un conflit intérieur. D'un côté, il y a ceux qui voient la réalité ambiante à laquelle il faut s'adapter, et de l'autre, il y a une peur énorme des dirigeants qui n'osent pas exprimer ouvertement ce que tout le monde pense. À l'origine, il y a eu la nécessité, après la Shoah, de sauver ce qu'on appelle le monde de la Torah, le monde des écoles religieuses. Mais nous avons sauvé ce qu'il fallait sauver. On a même obtenu plus. Maintenant, il faut commencer à regarder la réalité autour. Il y a des changements profonds. Simplement, les dirigeants haredi ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas le courage de le dire officiellement. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ça vient d'en bas.
Alon, vous appartenez à deux sociétés. Est-ce que vous diriez que le monde libre, comme vous l'appelez, est celui dans lequel vous vous sentez bien et que le monde en noir et blanc est un univers triste? Est-ce que c'est aussi tranché que ça ou est-ce que c'est plus nuancé quand on a mis le pied dans ces deux mondes?
C'est une bonne question. Et ma réponse, vraiment, c'est que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est sûr que, vu de l'extérieur, le monde libre, c'est un monde vraiment heureux. Et le monde d'où je viens, lui, a l'air misérable, étroit, fermé, avec ses règles et la façon qu'ont les gens de s'habiller. Mais d'une certaine façon, oui, c'est vrai. Si on regarde plus profondément, on voit les choses différemment. Ça peut même être l'opposé. Dans le mode de vie orthodoxe, avec tout ce qu'il a de pression et de limitation, ceux qui y croient en font vraiment partie. Ils sont vraiment heureux, ils ont beaucoup de joie intérieure. Ce n'est pas la joie démonstrative des gens qui dansent dans la rue, mais c'est la satisfaction de faire savoir ce qu'il faut faire et de le faire.
So as far as a real kind of happiness inside, qui sont pleins de cette joie-là. Moi, j'ai été surpris de découvrir qu'elle manque ici, dans ce que j'appelle le monde libre. Parce que quand je suis entré dans le monde libre et que j'ai essayé plusieurs options, je me suis rendu compte qu'il peut y avoir un certain nombre de personnes qui étaient un peu perdues dans leur parcours et qui n'étaient pas si heureuses que cela. Elles pouvaient manifester de la joie, s'amuser, comme on dit, mais sans être satisfaites. Parce qu'il y a tellement d'options, tellement de possibilités qu'on peut se demander où est-ce que je vais, pourquoi je fais ça et pas ça. Dans le monde où j'ai grandi, les choses étaient plus proches, plus étroites. Il y avait moins de choix. Vous deviez vous concentrer sur quelque chose tout le temps. Donc d'un côté, ça peut paraître plus calme ou plus triste, mais si on y regarde de plus près, c'est peut-être un endroit dans lequel la vie est plus heureuse si vous adhérez à ce mode de vie.
Israël, les juifs orthodoxes à la croisée des chemins, c'était un reportage à Jérusalem d'Étienne Monin. Réalisation signée Michel Soulier, assisté de Stéphane Combe. Mixage, Basile Bocker. Vous pouvez réécouter ce reportage sur franceinter.fr. À la semaine prochaine.
Interception, merci à vous Nasser Madji. Si vous souhaitez compléter votre information, rendez-vous sur le site internet de France Inter. Vous y trouverez différents liens, comme celui renvoyant au site du Centre communautaire laïque juif, avec une analyse du 4 avril 2017, les juifs ultra-orthodoxes, un monde en mutation. La semaine prochaine, Interception vous proposera une enquête sur les victimes de l'amiante et sur la difficulté à faire reconnaître leurs préjudices, avec un reportage signé Marie Roussel. L'émission sera présentée par Philippe Bardonneau.